Europe 1, Élysée 2022.
Alexandre Lemaire.
Avec le débrief de ce débat d'entre-deux-tours que vous avez pu suivre ce soir sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à minuit et demi pour cette grande soirée politique. Autour de moi, pour débriefer ce duel, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD. Bonsoir. Mariana Grépinet avec nous également. Bonsoir Mariana, grand reporter à Paris Match. Et puis on retrouve Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. J'aurais d'abord une question pour chacun d'entre vous. On va profiter de vos premières impressions à chaud, votre premier sentiment. Est-ce que vous avez l'impression justement que l'un des deux protagonistes a dominé ce débat ce soir, Jérôme Béglé?
Oui, je pense qu'Emmanuel Macron était un peu supérieur, mais c'est un peu arbitraire de dire ça comme ça. Je trouve que si on devait résumer le débat en une phrase, je dirais que c'est le débat de la condescendance contre l'insuffisance. Marine Le Pen avait quand même des gros trous dans la raquette, même sur ses sujets de prédilection, comme l'insécurité, elle a eu du mal à démarrer, et sur le pouvoir d'achat, où on voit qu'elle est un peu fâchée avec les chiffres. Elle a quand même montré qu'elle était plus faible que son interlocuteur. En revanche, Emmanuel Macron n'a pas pu s'empêcher d'être le professeur, quoi, de donner des leçons, de dire le bien et le moins bien, l'excellent et le pas bien. À la fin, ça donnait un débat un peu déséquilibré, quand même d'assez bonne tenue, en tout cas de meilleure tenue, me semble-t-il, que le match allait d'il y a 5 ans. Je ne crois pas que ce débat ait fait changer de bord les téléspectateurs et auditeurs qui avaient décidé de voter pour X ou Y. Je ne pense pas que celui qui a envie de voter pour Marine Le Pen, c'est-à-dire finalement je vais voter pour Emmanuel Macron, et réciproquement. C'est un peu un débat pour rien, même si je reconnais quand même qu'Emmanuel Macron, par le stage qu'il a vécu pendant 5 ans à l'Élysée, était quand même sur les dossiers, quels qu'ils soient, plus précis, plus clair, mieux formé, et avec, une façon de résumer et d'expliquer les choses beaucoup plus clair que son interlocutrice.
Mariana Grépinet, Paris Match, vous partagez le sentiment de Jérôme Béglé?
Alors oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Jérôme Béglé sur le fait que c'est un débat qui ne changera rien. Je ne crois pas que les Français qui avaient décidé de voter pour Marine Le Pen ou pour Emmanuel Macron vont changer d'avis à l'issue de ce débat. Mais l'objectif de Marine Le Pen était d'apparaître compétente, rassurante, plus lisse, et je crois que sur ce point-là, elle a quand même partiellement gagné, même si on a vu qu'à certains moments, elle s'est embrouillée et que sur les chiffres, elle n'était pas totalement au point, et Emmanuel Macron l'a reprise à plusieurs fois. Mais Emmanuel Macron, lui, son objectif, c'était justement de ne pas être professoral, ne pas passer comme l'homme arrogant, péremptoire, etc. Montrer qu'il était proche des Français, et de ce point de vue-là, il n'a pas totalement gagné son débat.
C'est pas tout à fait ce qui s'est passé sur le plateau.
On sait très bien qu'Emmanuel Macron maîtrise totalement les dossiers, qu'il connaît les chiffres sur le bout des doigts. C'était déjà le cas il y a 5 ans. Aujourd'hui, évidemment, c'est encore le cas. Et je crois qu'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes objectifs dans ce débat. Et lui, il n'a pas tout à fait gagné ce qui était en jeu de son côté. En fait, elle a quand même plusieurs fois montré des signes d'empathie, montré qu'elle était proche des gens, etc. Lui, il n'a pas forcément réussi à le faire.
Une Marine Le Pen beaucoup plus maîtrisée qu'il y a 5 ans. Elle efface l'ardoise, Louis Dragnel.
Je pense, enfin, on n'efface jamais l'ardoise de ce genre de choses, mais en revanche, je trouve qu'elle a lavé l'affront, la honte, l'échec de son débat de 2017. Alors, c'est un débat qui était quand même assez particulier parce qu'il y avait des moments qui étaient très très techniques, donc il fallait quand même bien connaître les sujets. Et même pour nous, journalistes, ou pour les téléspectateurs, et les auditeurs, je pense qu'il y avait des moments qui étaient difficiles à regarder et à suivre. Ensuite, je trouve surtout que, en fait, on peut analyser le débat de deux manières. Qui a gagné d'un point de vue rhétorique le débat? Sans aucune hésitation, c'est Emmanuel Macron. Ensuite, qui a convaincu les Français? Qui est apparu plutôt sympathique, plutôt compréhensif à l'égard des préoccupations des petites gens, les préoccupations des classes moyennes, des gens qui ne sont pas les premiers de cordée? Et bien, je pense que Marine Le Pen a marqué des points de ce point de vue, de ce côté-là, vraiment. Et donc, je ne suis pas sûr, effectivement, que ce soit une victoire écrasante d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas du tout comment les Français ont perçu ça, mais en tout cas, moi, c'est mon interprétation personnelle, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron est quand même paru parfois assez arrogant, un peu prétentieux, un peu suffisant. Ça rejoint un peu ce que disait Jérôme Béglé. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, parfois, je trouve qu'elle n'était pas très offensive. Alors, vous dites maîtrisée, je suis d'accord avec vous, mais on s'attendait peut-être parfois à une plus grande pugnacité pour défendre ses convictions. Et voilà, donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre de Français qui s'identifient à elle, parce que c'est celle qui combat, qui lutte. C'est pas facile, elle est face justement à c'est ce que vous venez de dire, un Emmanuel Macron un peu professoral qui donne des bons et des mauvais points. Et après, je trouve qu'il y a eu des moments quand même assez intéressants dans les passes d'armes. Il y a eu des punchlines hein, sur notamment Emmanuel Macron qui dit « Vous dépendez du pouvoir russe et de Vladimir Poutine ». Marine Le Pen qui lui dit « Le Mozart de la finance que vous êtes ».
Alors justement, on va y revenir. On va écouter quelques extraits tout à l'heure, Louis Dragnel. Si je vous suis, c'est que en résumé, Emmanuel Macron a semblé prendre l'ascendant sur le fond des dossiers, mais que sur la forme, c'est plutôt Marine Le Pen qui...
Je ne sais pas si elle a gagné. En fait, je pense que...
Sans parler d'avoir gagné.
D'accord, c'est qu'en fait, je pense que chacun convainc son camp. Ensuite, il y a à peu près 20% des électeurs qui étaient encore indécis jusqu'à ce soir. Je ne sais pas si, du coup, ils sont déterminés à aller voter. Et est-ce qu'au contraire, il y a des gens qui, en regardant le débat, se sont dit, finalement, est-ce que je vais vraiment aller voter ?
Justement, on va aller prendre le pouls, justement, chez les sympathisants, les soutiens de chacun des protagonistes. D'abord avec vous, Victor Chabert. Victor, vous êtes en direct du QG de Marine Le Pen. Quel est le premier sentiment, justement, de tous ceux qui ont, avec vous, suivi le débat, Victor ?
Eh bien, il y a de la satisfaction. Il loue la sérénité de Marine Le Pen face à un Emmanuel Macron qu'il juge arrogant, condescendant lors de ce débat. Un soutien me confie que ça n'avait rien à voir avec 2017, que Marine Le Pen avait changé et qu'il espérait que les Français l'aient vu. Mais il n'y a pas eu d'exploit, pas eu de domination de Marine Le Pen et cela se ressent. Hein. Il y a une satisfaction relative, notamment sur la première partie du débat où la candidate a eu du mal à vraiment rentrer dans le vif du sujet, avec ce faux départ qui a jeté d'ailleurs un petit froid dans la salle. Hein, où là, il y a eu vraiment un sentiment de revivre, la peur de revivre 2017, ce moment où elle a parlé pendant le générique. Elle a dû se reprendre juste au tout début du débat. Le sentiment qui ressort ici ce soir, c'est vraiment finalement d'avoir limité au maximum la casse et d'être apparue comme une candidate sereine face à un Emmanuel Macron arrogant.
Merci Victor. On va voir tout de suite ce qu'en pensent pour leur part les soutiens d'Emmanuel Macron avec vous. Jacques Serret, vous êtes aux côtés des jeunes avec Macron. Jacques, les jeunes convaincus par la prestation de leur candidat, de leur champion ce soir ?
Oui, plutôt en tout cas en croire les cris, les chants à l'issue du débat. Les militants qui ont entonné ce chant et 1 et 2 et 50 plus pendant plusieurs minutes une fois le débat terminé. Alors certains me confiaient qu'ils étaient surpris de voir le président candidat autant dans l'offensive ce soir. Et en même temps qu'ils l'ont trouvé, qu'ils le jugent plutôt bon dans cet exercice, qu'ils refusent ce procès en arrogance. Ils ne l'ont pas vu de cette manière, mais plutôt dans cette posture de au-dessus de la mêlée, au-dessus de la candidate Marine Le Pen. Donc des candidats qui ressortent convaincus, ce n'est pas surprenant, mais en tout cas qui ont le sentiment que le président candidat a réussi cet exercice ce soir. Mais en même temps, qui ont vu chez Marine Le Pen une candidate plus aguerrie qu'en 2017. C'est quelque chose qui est beaucoup répété aussi chez les militants actuellement. Donc au final, entre la victoire d'Emmanuel Macron et un match nul chez d'autres.
Merci beaucoup Jacques Serret, Jérôme Béglé, directeur de la rédaction de JDD. Je vous vois réagir à tout ça.
Quand vous êtes confronté à la difficulté de défendre un bilan, vous avez beau dire que le pouvoir d'achat a moins baissé en France que dans d'autres pays européens. Pour ceux qui sont victimes de la baisse du pouvoir d'achat, c'est inaudible. Vous avez beau dire que l'insécurité a été vaguement combattue. Vous avez beau dire que le chômage baisse. Quand vous êtes au chômage, vous n'entendez pas. Défendre un bilan dans ces conditions, c'est très compliqué. C'est comme quand le monsieur ou madame météo dit il va faire chaud ce matin. Si vous avez froid, c'est votre faute ou c'est la faute de la personne qui a annoncé la température ? C'est quand même vous qui êtes la principale victime de la température que vous ressentez. Par conséquent, c'est très difficile de défendre un bilan et Emmanuel Macron a été confronté à ça. En revanche, en face, quand vous attaquez un bilan, vous avez les 4 ou 5 points saillants sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et Marine Le Pen a été assez habile là-dessus. Elle a dépeint un tableau pas tellement plus sombre que ce qu'il est vraiment. Mais au moment où il a fallu qu'elle donne des explications, où elle donne des embryons de programme, ou qu'elle dise ce qu'elle allait faire, ce qu'elle pouvait faire, c'est là où j'ai trouvé un petit peu en dessous du niveau qu'elle aurait pu développer.
Marianne Agrippinet,
Paris Match. Sur cette question du bilan, moi j'ai trouvé ce qui était intéressant dans ce débat, c'est que finalement il y a une inversion des rôles. En fait, normalement, Emmanuel Macron devait se défendre sur le bilan et finalement c'est lui qui a souvent attaqué. Et Marine Le Pen s'est défendue. En fait, il l'a attaqué sur son propre bilan, qui était le bilan de ses votes à l'Assemblée ou le vote de son groupe au Parlement européen. Et j'ai trouvé que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, comme s'il se plaçait dans la position du challenger, alors que normalement, les rôles étaient dans l'autre sens.
L'idée était d'allumer des contre-feux, puisqu'il se savait attaquable, en tout cas, peut-être sur son bilan.
Voilà, tout à fait. Je pense que c'était sa manière de réagir et que la meilleure défense est toujours l'attaque.
On va entendre justement une passe d'armes sur la question de la guerre en Ukraine et de la Russie. Emmanuel Macron ayant accusé Marine Le Pen d'être dépendante par rapport à Vladimir Poutine, dans la mesure où elle détient un compte en banque, un prêt, qu'elle a contracté un prêt en Russie. On écoute.
Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes, dès 2014, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait pourquoi ? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Mme Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe.
Si j'ai été obligé d'aller faire un prêt à l'étranger,
donc vous l'avez
c'est
fait.
Parce que, mais bien sûr, mais d'accord. Tout le monde le sait, c'est de notoriété publique, c'est parce qu'aucune banque française n'a voulu m'accorder de prêt. Monsieur Macron, c'est malhonnête de m'empêcher d'obtenir un prêt dans une banque française et de me reprocher après de partir à l'étranger pour en chercher un.
Vous rigolez ou quoi ? En 2015, je vous ai empêché de trouver un prêt dans une banque française.
Vous étiez bien ministre de l'économie à l'époque.
J'étais pas ministre des Finances. L'économie, il n'y a pas les banques.
Emmanuel Macron.
Et en plus, personne n'est jamais intervenu, vous le savez très bien.
Il marque un point ici, Emmanuel Macron, Louis Dragnel.
Alors, sur la séquence globale, je ne suis pas tout à fait sûr parce que si on écoute ensuite ce que dit Marine Le Pen, elle lui reproche, elle lui dit « Mais vous, ça ne vous a pas gêné en fait, de recevoir Emmanuel Macron à Versailles, puis à Brégançon ? Qu'est-ce que vous lui avez dit à Vladimir Poutine sur l'annexion de la Crimée ?» Et elle termine, et je me souviens de cette phrase, et elle dit « En fait, on dit à peu près la même chose, vous et moi, Emmanuel Macron et moi, Marine Le Pen. » Et du coup, il a essayé de l'attaquer. Il savait qu'il allait l'attaquer là-dessus. Là, pour le coup, tout était assez préparé. Et elle savait également qu'Emmanuel Macron allait la tacler sur ce sujet. Et à la fin, je me demande si les gens qui regardent et qui écoutent ça se disent pas, on peut éventuellement comprendre ce que dit Marine Le Pen. D'autant qu'il y a un argument que Marine Le Pen développe après sur la banque de la démocratie. Alors, ça paraît très technique, mais en fait, c'était un des engagements de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Qui était justement pour permettre au fonctionnement, à la démocratie de fonctionner de manière totalement indépendante et surtout éviter que les candidats à la présidentielle soient obligés de contracter des emprunts auprès de banques étrangères. L'idée, en fait, c'était qu'il y avait une banque de la démocratie, une banque de l'État, qui permette de financer, d'accorder des prêts à tous les candidats à la présidentielle. Voilà. Finalement, c'est quelque chose qui n'a jamais vu le jour. Et c'est pour ça que Marine Le Pen attaque Emmanuel Macron sur cette question de la banque de la démocratie, qui était une promesse qui n'a pas été réalisée.
Jérôme Begley, JDD, vous souhaitez réagir également à ce sujet.
Dans l'extrait que vous avez passé, Emmanuel Macron dit qu'il n'était que ministre de l'économie et pas ministre de l'économie et des finances, et donc qu'il n'avait pas autorité sur les banques. Une demi-heure plus tard, dans le même débat, il va se qualifier lui-même, à l'époque, de ministre de l'économie et des finances. Donc il redéfinit son périmètre et l'intitulé de son poste. Quand ça l'arrange, c'est un point. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas parce que vous empruntez de l'argent auprès d'une banque, dont c'est quand même le métier de prêter de l'argent, que vous êtes absolument sous la dépendance, sous la coupe, sous l'influence de cette banque. Ou alors Emmanuel Macron, qui a lui-même été banquier d'affaires chez Rothschild, tenait donc sous sa coupe, dans ses mains, sous son autorité, les gens avec lesquels il contractait. Donc je trouve que ces arguments ne sont pas extrêmement intéressants et percutants, alors que je pensais que c'était justement sur ce sujet-là, d'une certaine façon, je pensais qu'il pouvait plus facilement la plier sur ce sujet-là, il n'est pas arrivé, et que Marine Le Pen aurait été meilleure sur les sujets de sécurité et d'insécurité. Et je trouve que sur ces deux grands clivages, ces deux grands thèmes qui devaient être des autoroutes et pour l'un et pour l'autre, l'écart est beaucoup plus ténu et beaucoup plus serré qu'on pouvait le penser.
Mais dans sa relation à Vladimir Poutine, à la Russie, Emmanuel Macron disait deux choses. Il dit effectivement, vous empruntez, mais vous ne remboursez pas. Il y avait ça aussi de sous-jacent dans ce qu'il sous-entendait.
Moi, je n'ai pas le dossier sous les yeux. Quand Marine Le Pen dit qu'il y a une commission qui contrôle le remboursement, évidemment que si elle avait oublié de rembourser, ça aurait été en une de beaucoup de journaux dès le soir ou le lendemain matin. Donc j'imagine qu'elle rembourse. Par ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'il y a un embargo sur un certain nombre d'entreprises et de banques russes. Comment ça se passe ? Oui. On va donc interdire au Rassemblement National de rembourser l'emprunt qu'elle doit à une banque russe parce qu'on a mis cette banque-là et d'autres.
D'autant plus que ça n'empêchait
c'est
pas.
C'est assez drôle,
assez
cocasse comme si.
Ça n'empêchait aucune entreprise française de commercer avec la Russie.
Oui.
Et l'emprunt russe a été contracté avant l'invasion de l'Ukraine, puisque c'était en 2017.
On ne va pas refaire le débat, mais ce n'est pas tout à fait n'importe quelle banque russe non plus, auprès desquelles elle s'est engagée. Donc c'est quand même ça aussi le sujet dans le. Un élément intéressant dans ce passage sur l'international, c'est quand justement Marine Le Pen, en évoquant son parti, a dit « Nous sommes un parti pauvre, ce n'est pas déshonorant ». Et ça revient un peu à ce que je voulais dire tout à l'heure sur l'idée qu'à chaque fois, elle essaye de se remettre
du côté du peuple,
voilà, du côté du peuple de montrer qu'elle est comme les autres, etc. Alors évidemment, ça n'a rien à voir, mais je crois que voilà, elle essaie de se victimiser là et c'est un argument qui peut marcher.
Et ce qui est très intéressant, c'est de noter qu'Emmanuel Macron, là encore, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, a essayé de renverser la vapeur à propos de la baisse de la TVA en lui disant « Votre baisse de la TVA, elle est injuste, elle n'est pas ciblée, ça va coûter des milliards d'euros et profiter à des gens comme nous quatre sur ce plateau qui n'en ont pas besoin. »
Oui, tout à fait. Mais après, elle le renvoie en lui disant « Oui, mais la vraie vie, c'est... » Et puis lui, il lui répète « Oui, mais on est tous dans la vraie vie. » Et elle évoque les gens à faible salaire, etc. Et voilà. Et lui, lui dit ben, « on est de l'autre côté. »
Une autre passe d'armes ce soir vers la fin du débat. Elle s'agissait du débat sur l'immigration, sur la sécurité, également sur le port du voile. Écoutez.
Et donc, à l'école, il n'y a pas de voile. Parce qu'on forme des consciences. Dans les services publics, il y a une neutralité des services publics, elle est absolue. Par contre, dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Ça n'est pas le respect de nos valeurs. Ce sera même infaisable. Combien de policiers,
nous
gendarmes...
Nous avons été le premier pays au monde à mettre en place beaucoup de lois, vous savez.
Oui, de liberté, de tolérance. Là, vous proposez une loi d'interdiction.
C'est une loi de défense de la liberté.
Non, c'est une loi de rejet. On a des millions de nos compatriotes, dont la religion est l'islam.
Je l'ai dit au début de mon propos.
Oui, mais ils veulent vivre très tranquillement.
Je l'ai dit au début.
Et ils veulent pouvoir... Latifa Ben Laden, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste, que nous voyons tous avec émotion, avec son foulard. Vous voulez lui arracher son foulard après que... Mais c'est ça ce que vous proposez, Madame Le Pen. C'est ça ce que vous proposez, de manière très concrète. Donc, ce que je dis juste, c'est que vous êtes en train de pousser des millions de nos compatriotes, de par leur religion, hors de l'espace public.
Combat contre l'islamisme, ne pas confondre islam et islamisme en réalité. C'est ce que dit Emmanuel Macron à Marine Le Pen.
Absolument. Alors, c'est vraiment un sujet ultra sensible politiquement, la question du voile. Parce qu'en fait, derrière, en cascade, il y a énormément de déclinaisons de ces sujets dans la vie quotidienne des Français et puis des Français musulmans. Ce qu'on voit, c'est que Emmanuel Macron, sur toutes ces questions-là, il a essayé de montrer que c'est sans doute l'un des présidents qui s'est le plus engagé contre le communautarisme, avec sa loi notamment sur le séparatisme, que les questions régaliennes, alors il a peut-être mis du temps à s'y intéresser, mais quand il s'y est attelé, c'est quelque chose un sujet qu'il a pris à bras le corps. Et de l'autre côté, effectivement, vous avez Marine Le Pen qui a fait cette proposition pendant la campagne d'interdiction du port du voile dans l'espace public, donc ça a suscité un tollé. On voyait que même il y a quelques jours que Marine Le Pen n'était pas très à l'aise sur le sujet. Mais Emmanuel Macron non plus n'est pas très à l'aise. Je regardais il y a quelques années, Emmanuel Macron lui-même en 2018, vous voyez, il avait dit « Le voile est un objet qui nous insécurise et qui n'est pas conforme à la civilité ». Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ici même au micro d'Europe 1, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui avait dit, ça avait fait une polémique encore une fois, « Le voile n'est pas souhaitable dans notre société ». Et en fait, on voit bien que Marine Le Pen a essayé de coincer Emmanuel Macron sur son revirement de fin de campagne pour essayer de parler à la France insoumise. Je trouve qu'elle n'a pas réussi à se défendre avec efficacité. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron a répondu avec la réponse administrative technique. Il faut séparer islam et islamisme. On ne peut pas interdire le port d'un signe religieux en France. Et puis, il a volontairement aussi, et c'était assez habile de sa part, dit « Mais attendez, si vous interdisez le voile, vous interdisez aussi la kippa. Toutes les religions sont concernées par ça. » Donc, il y a une sorte de match nul, je trouve, sur cette question.
Pas aussi convaincante qu'elle aurait espéré sur cette question du voile,
sur cette question
Marine Agrippinet.
Sur cette question du voile, il faut quand même rappeler que dans les derniers jours de la campagne, elle avait été interpellée dans un déplacement et sur des marchés par des femmes âgées voilées et qui leur avaient dit « Mais donc, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, vous voulez nous arracher le voile ?» Donc, il y avait déjà eu ce moment-là et elle était un peu revenue en arrière en disant « Non, ce ne sera pas pour les personnes âgées, ce ne sera pas pour les grands-mères », avait-elle dit. Donc, en gros, l'idée que ce serait plutôt pour les les jeunes filles ou les enfants. Mais voilà, même elle-même avait déjà fait un petit rétro-pédalage sur, sur cette proposition qui était effectivement bancale.
En fait, c'est un sujet qui est très compliqué politiquement parce qu'il y a énormément de Français aujourd'hui qui voient de plus en plus de femmes voilées dans la rue et ils se sentent agressés. Vraiment, c'est quelque chose qui leur est assez désagréable parce que c'est, comme le disait d'ailleurs Emmanuel Macron, c'est pas conforme, entre guillemets, à la coutume française. Et de l'autre côté, on se heurte, en fait, à toute la générosité, l'universalisme de notre droit, avec, justement, l'acceptation, effectivement, de toutes les pratiques religieuses dans l'espace public. Et donc, la réponse pour le président de la République, le législateur, elle est très compliquée à formuler. Souvenez-vous, la loi sur la dissimulation du visage qui avait été votée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ça avait mis un temps fou, des débats interminables. Donc voilà, ce sont des sujets toujours très compliqués entre la perception des gens et ce qui est réellement faisable au regard du droit en France.
Jérôme Begley, JDD.
Notre société vit sous l'empire de ce qu'on appelle la laïcité à la française. La laïcité à la française, c'est que toutes les religions doivent pouvoir coexister dans l'espace public. Donc on doit pouvoir avoir dans une file d'attente chez le boucher ou à la sécurité sociale un homme qui porte une kippa, une femme qui porte un voile, un homme ou une femme qui porte un signe distinctif de la religion catholique, etc., etc., etc. Sauf qu'on s'aperçoit qu'avec les années, et les associations, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et, je dirais, l'esprit de notre société acceptent ça en théorie. En pratique, c'est autre chose. Mais à chaque fois qu'on a voulu faire bouger cet esprit de la laïcité à la française, on s'est heurté alors, à des grands mouvements médiatiques, à des grands mouvements sociétaux, associatif et évidemment au Conseil d'État qui est intervenu. Je crois que ça va être extrême. Alors, si on veut faire évoluer cette laïcité à la française, que je trouve d'une certaine façon un peu souhaitable, parce que ce qui régissait au début du XXe siècle, le rapport dans la société a un peu changé quand même 100 ans et quelques plus tard. Il va falloir qu'on s'y prenne autrement que par des grandes déclarations incantatoires ou par des volontés référendaires. C'est-à-dire qu'il va falloir expliquer en quoi ce qui était prégnant en 1905 les moins en 2022. Et je ne suis pas certain qu'en le faisant à coup de loi, à coup de grands slogans, soit quelque chose d'intéressant et qui fasse particulièrement avancer le débat.
Il y avait un enjeu particulier dans ce débat, en tout cas ce soir, particulièrement pour Marine Le Pen après sa mauvaise prestation d'il y a 5 ans, en 2017. On va écouter ce qu'on en dit justement ce soir dans son camp. On va entendre Laure Lavalette, qui est la porte-parole de campagne de Marine Le Pen.
Je pense que c'est un bon débat et solide sur ses appuis. Elle montre toute sa compétence et sa sérénité. Je pense que c'était l'objectif. Effectivement, il est atteint. Marine Le Pen est en campagne depuis 8 mois. Elle a eu aussi le temps d'aller à la rencontre des Français, de dérouler son programme. Et je pense que cette soirée est dans la droite ligne en fait, de son attitude. Hein. Vous avez vu, elle n'est absolument pas dans l'invective. Elle déroule sereinement. Donc, non, je pense que les gens seront sensibles justement à cette sérénité, alors que l'espèce d'arrogance qui ne quitte pas le président candidat, à mon avis, déplaît fortement aux Français.
Laure Lavalette, donc au micro de Victor Chabert, la porte-parole de campagne de Marine Le Pen. Marianne Agrippinet, par image, c'est cela hein, qu'utilise le camp de Marine Le Pen ce soir, mettre en exergue l'arrogance perçue ou supposée d'Emmanuel Macron.
Hein. Alors tout à fait, mais je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose à signaler, c'est que la forme du débat l'a peut-être servi parce que les thèmes se sont enchaînés assez vite et à chaque fois qu'Emmanuel Macron la mettait face à des contradictions, finalement on passait au thème suivant et donc elle n'avait pas le temps de répondre et quelque part ça l'arrangeait. Et donc je me dis que voilà, peut-être elle a été aussi avantagée cette fois-ci par cette rapidité des débats et cette multiplication des sujets qui a fait qu'on a pu aborder effectivement la quasi-totalité des grandes thématiques de société qui ont été les thématiques de campagne, mais pas forcément totalement à fond à chaque fois, avec probablement des frustrations de part et d'autre.
Louis Dragnel.
Moi, je trouve quand même il y a eu aussi beaucoup de moments où elle était un peu dans les cordes, Marine Le Pen. Du point de vue de la rhétorique, Emmanuel Macron était assez doué, vraiment, pendant ce débat.
On a pu la sentir désarçonnée à plusieurs
reprises. Elle était désarçonnée parce qu'il y a plein de moments où il dit « mais je suis totalement d'accord avec vous ». Mais bien sûr, mais vous avez raison, évidemment. Et ensuite, c'est pour mieux expliquer toutes les différences et tout ce qui l'oppose à elle. Et du coup, on voit bien que c'est une manière de débattre qui est quand même assez singulière. Les débats classiques, on confronte deux points de vue, on peut s'accorder un bon point, Mais là, je sais, il faudrait compter le nombre de fois où Emmanuel Macron dit « mais vous avez raison, mais je suis d'accord avec vous ». Et d'ailleurs, Marine Le Pen, de son côté, l'a également fait. À un moment donné, elle dit, sur la question par exemple internationale ou sur la loi de programmation militaire, mais vous avez bien fait et je salue l'action que vous avez menée. Et ça, c'est des choses assez rares quand même dans les débats d'entre deux tours présidentiels. Il y avait cette volonté, mais c'est surtout Emmanuel Macron qui a fait ça, d'essayer de facialement de montrer qu'il y avait un consensus sur des sujets pour mieux ensuite l'attaquer. Et c'est vrai qu'on voyait que psychologiquement, ça l'atteignait. Elle était un peu décontenancée à certains moments.
Oui, il y a aussi de très nombreuses fois où elle ne savait pas trop quoi répondre. Elle disait c'est faux, et ça n'allait pas plus loin. Donc je pense qu'il faudrait s'amuser à compter le nombre de fois où elle a dit ça.
Sans argumentation.
Sans rien derrière.
Ouais. On va entendre un autre angle d'attaque qu'a choisi Marine Le Pen, qui s'est bien évidemment appuyée sur le bilan d'Emmanuel Macron. Elle lui reproche une dette de 600 milliards d'euros au cours de son quinquennat.
Le Mozart de la finance, c'est comme ça qu'on vous avait présenté, je ne dis pas que vous vous étiez présenté, mais on vous avait présenté à un bilan économique qui est très mauvais. Je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2/3 qui n'ont rien à voir avec le Covid.
Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen.
600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Non, mais d'accord.
Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible.
Monsieur Macron.
C'est la dette Covid, c'est 600 milliards de dettes. Je l'assume totalement. Mais le quoi qu'il en coûte, Madame Le Pen, vous avez voté contre. Vous auriez fait quoi ? Que les restaurateurs, que les artisans, que les commerçants, que les petits industriels qui nous écoutent aujourd'hui, mais viennent témoigner, viennent vous parler et vous dire qui les a aidés pendant la crise Covid.
Jérôme Béglé, JDD, on retrouve un peu les accents d'il y a 5 ans quand on écoute cet extrait. Hein. Sur la partie économique, vous racontez n'importe quoi, Emmanuel Macron.
Le Mozart de la finance, c'était Jean-François Hénin qui était le patron d'Altus, qui était la filiale d'un peu de capital risque du Crédit Lyonnais dans les années 90. Et c'est lui qu'on avait surnommé ainsi. C'était un de ceux qui a précipité le Crédit Lyonnais dans la crise que l'on connaît. Bon. Donc après, on s'est repassé le titre, si j'ose dire, et je découvre ce soir qu'on avait dit qu'Emmanuel Macron était le Mozart de la finance. Bon, ça cadre bien avec le discours, pourquoi pas, mais enfin, factuellement, c'est faux. Il se trouve que sur ces questions-là, Emmanuel Macron, il parle sa langue maternelle, celle d'un homme qui a fait l'ENA et qui a une rhétorique née. Alors que Marine Le Pen, elle parle une langue qu'elle a apprise récemment, qu'elle a apprise depuis 5 ans, parce qu'elle a vu que c'était par là qu'elle avait pêché en 2017. Donc évidemment, il y a une différence de point de vue entre ceux qui parlent une langue maternelle et ceux qui l'ont apprise il y a peu de temps. Donc on a vu que l'un était pied au plancher et l'autre balbutiait un peu. Cela dit, moi je me méfie de la façon dont dans des studios à Paris on peut réagir. Peut-être que l'électeur classique, le français dit moyen qui n'existe pas, trouvera qu'elle avait des accents de sincérité et que ses hésitations plaide plus en sa faveur que le côté matamore, bulldozer, j'avance, je sais ce que j'ai dit et je n'en demanderai pas. Pour finir, et on a le droit de se contredire aussi dans une même intervention, là où Emmanuel Macron marque un point, c'est que le quoi qu'il en coûte, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé, s'est révélé être la solution la meilleure pour éviter que des dizaines de milliers d'artisans soient précipités dans la faillite, que des milliers d'entreprises, petites et moyennes, échouent à la barre du tribunal de commerce et que des centaines de milliers, voire des millions de salariés se retrouvent au chômage. Rétrospectivement, on peut difficilement critiquer cette politique-là.
Et ce quoi qu'il en coûte, il s'est largement appuyé dessus lorsque Marine Le Pen a semblé l'accuser de faire des cadeaux aux grands groupes. Il a su rappeler combien ces mesures avaient pu aider les petits commerçants, les petites entreprises.
Qu'il y ait eu des effets d'aubaine ou des effets de bord, sans doute, peut-être. Mais globalement, l'architecture du quoi qu'il en coûte ne peut pas être jetée par terre aujourd'hui.
Louis Dragnel,
juste une petite chose. Oui. Au moment où il était mis en place, il y avait un quasi-consensus politique. Hein. Enfin, oui. Faut quand même se souvenir, il n'y avait pas beaucoup de débats et pas beaucoup de parlementaires pour dire non, moi je ne veux pas du quoi qu'il en coûte. C'était une des rares mesures d'ailleurs du quinquennat qui a vraiment suscité l'unanimité, ou la quasi-unanimité.
Attention aux écarts de perception de cette séquence, disait Jérôme Béglé. Un Emmanuel Macron peut-être encore... peut-être perçu comme pontifiant, donneur de leçons, devant Marine Le Pen sur le thème de l'économie, sur le thème de la dette.
Je pense que pour les gens qui n'apprécient pas Emmanuel Macron, voire qui le détestent, puisque c'est un sentiment qui existe dans la société, ils sont confortés effectivement avec cet exemple-là que vous venez de citer, Jérôme, dans leur conviction qu'Emmanuel Macron se sent au-dessus d'eux, les toises, les regarde de haut et s'occupe simplement des gens qui
réussissent.
C'est un
des effets de bord, sans doute, du débat qu'on ne maîtrise pas très bien ce soir. Mais peut-être qu'il y a des gens qui disent « il ne m'a pas parlé à moi ». Il est un peu, il parle aux riches, à cette France qui a profité de ces dernières années. Et ça, moi, je ne sais pas le mesurer ce soir.
Là où je suis d'accord avec vous, c'est que quand on, avec ce point de vue-là, Emmanuel Macron, tout s'enchaîne. C'est-à-dire que tous les raisonnements sont extrêmes. Il y a beaucoup de logique, il y a énormément de suite dans les idées, il y a assez peu d'incohérence. Tout était assez clair, il n'y avait pas beaucoup d'ambiguïté. Et donc, ça donne l'impression de voir un cerveau très brillant. Et pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est... ils ne s'identifient pas à ça. Et ils s'identifient, ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, peut-être plus pour certaines personnes, à Marine Le Pen. Mais effectivement, on est dans une guerre des perceptions. C'est-à-dire que le débat rhétorique, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, c'est Emmanuel Macron qui l'a remporté. Ensuite, qui a réussi à convaincre les Français, qui est apparu le plus calme, le plus posé, le plus proche des gens. Là, pour le coup, je pense que Marine Le Pen a marqué des points ce soir.
Alors, on a entendu justement, il y a quelques instants, la première réaction de sa porte-parole, Marine Le Pen, Laure Lavalette. Je vous propose d'écouter maintenant Olivier, qui est un militant des Jeunes avec Macron.
Globalement, je trouve qu'il a bien maîtrisé ses sujets. De ce que j'ai entendu, il a su bien répondre par rapport à ce que pouvait, sur les attaques que pouvait lui envoyer Marine Le Pen. Donc je pense que oui, globalement, il a bien réussi son débat. Personnellement, au niveau personnel, ce que je pense, c'est que ça ne va pas énormément faire évoluer les positions de vote et tout. Je ne sais pas trop comment vont se positionner les indécis, mais je pense que ça aura conforté ceux qui voulaient voter pour Emmanuel Macron et conforté dans le temps ceux qui voulaient voter pour Marine Le Pen. Ce n'est pas peut-être en 2017, ça avait vraiment été un débat qui avait assuré vraiment Emmanuel Macron par rapport à Marine Le Pen. Cette fois, ce sera peut-être plus un match nul sans vraiment un positionnement et un avantage clair à un ou à un autre candidat. Et
tout. Voilà, Olivier, militant du camp d'Emmanuel Macron, au micro de Jacques Serret. De l'aveu même de ce militant, Mariana Grépinet, alors match nul, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'il nous dit, c'est « Ah, on a l'impression que finalement, ça ne va pas faire changer d'avis les indécis, ça ne va pas décider les indécis, ça ne va pas modifier les rapports de force. »
Oui, peut-être aussi ce qui est intéressant, c'est de voir que c'était un débat quelque part entre technos. Alors, Jérôme Béglé disait tout à l'heure que Marine Le Pen avait appris la langue plus récemment, mais en tout cas, là, elle l'a parlé, et peut-être qu'une grande partie des Français ne parlent pas cette langue, et qu'ils se sont sentis un peu éloignés de ce débat. Honnêtement, à certains moments, moi-même, j'étais perdue. Il y a quelques moments où il se lançait des chiffres. Si on ne les avait pas nous-mêmes sous les yeux, on pouvait perdre le fil du débat.
On retombait dans les travers classiques du débat, bataille de chiffres.
Voilà, il n'y avait peut-être pas la grande vision d'avenir, etc. Et puis, les proches d'Emmanuel Macron avaient dit que le chef de l'État candidat était censé faire de ce débat une démonstration, montrer en quoi il allait embarquer les Français, montrer sa vision de l'avenir. En quoi la France serait différente s'il l'emportait au terme de 5 années supplémentaires. Et ça, je crois qu'on ne l'a pas tellement vu. Et du côté de Marine Le Pen non plus, finalement. Mais le débat s'est positionné sur cette partie très techno, très chiffrée, et moins sur de grandes visions, un projet commun, un débat d'idées. Quoi.
Louis Dragnel.
Non, mais je suis assez d'accord avec vous. C'est sans doute le manque de ce débat. C'est les enjeux de civilisation, en fait, tout simplement, parce qu'il y avait beaucoup de sujets techniques qui pouvaient faire référence aux enjeux de civilisation, mais à très peu de moments, en fait, il y a eu cette projection dans la France de 2050, même de 2100, les grands projets, à quoi ressemblera notre société, vers où souhaite nous emmener soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen, à l'avenir, à quoi ressemblera la France. Voilà, ce sont tous ces sujets-là qui, je trouve, n'ont pas trop été évoqué par les candidats qui cherchaient simplement à essayer de convaincre leurs fans, leurs adhérents ou les Français. Et il n'y a pas eu de victoire par chaos, en fait, tout simplement.
À quoi ressemblera la France? Inflexion notable, notoire d'Emmanuel Macron dans son entre-deux-tours, son réservoir de voix se trouvant à gauche. Emmanuel Macron a cherché à verdir son discours. On l'a entendu ce soir sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique.
J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Bon. Donc, c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas.
Je ne suis absolument pas climato-sceptique. En aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté de régler tous ces problèmes.
Voilà, échange sur la lutte sur le climat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Jérôme Béglé.
Bon, classique, on n'a pas vu l'Emmanuel Macron de Marseille, qui était devenu une espèce de Tché étonnant, qui avait enfourché des chevaux de bataille qu'on ne lui connaissait pas jusque-là.
Sans la planification, reprenant
le slogan de Jean-Luc Mélenchon, voulant créer deux ministères du plan, de la planification, et abordant des questions écologiques qui lui étaient jusqu'ici visiblement assez lointaines. Là, il est revenu à son premier programme, si j'ose dire. Alors, vous parlez tout à l'heure des questions de civilisation. Elles ont été portées essentiellement dans cette présidentielle par Éric Zemmour. Éric Zemmour éliminé, personne n'a jugé bon de reprendre tout ou partie de ses accents, de son programme, dans sa propre profession de foi. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont dit, bon, le doux rêveur qui veut penser la France de 2050, de 2100, c'est pas pour nous, nous on est plus pragmatiques. Je sais pas s'ils ont eu raison ou tort, en tout cas ils se sont retrouvés dans cette volonté de fermer les yeux sur les grandes questions qui se poseront à nos enfants ou à nos petits-enfants.
C'était d'ailleurs l'un des moments clés de la conclusion d'Emmanuel Macron, hein, veiller à l'avenir des enfants, Louis Dragnel. Et évidemment, la question climatique en fait largement partie.
Ah, on sait que c'est une préoccupation, notamment chez l'électorat jeune, effectivement, et Jérôme Béglé a raison de le rappeler. C'est Emmanuel Macron, s'il a tenu ce meeting à Marseille, c'était pour convaincre, essayer de cibler l'électorat mélenchoniste 18-25, 18-35 ans. Et donc, effectivement, la question du vote des jeunes est toujours au cœur de toutes les campagnes présidentielles. En 2007, et je crois que c'était une des rares fois où la jeunesse a plutôt voté pour Nicolas Sarkozy, et la plupart du temps, la jeunesse vote plutôt à gauche. Et on sait que, voilà, depuis qu'il y a ce butin de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui est allé à chercher ou à prendre, soit par Marine Le Pen, soit par Emmanuel Macron, eh bien, voilà, Emmanuel Macron, en tout cas, a essayé de parler à cette jeunesse, a essayé de parler d'avenir. Justement pour essayer de récupérer ce vote-là.
Marianne Agrippiné, Paris Match.
Alors peut-être qu'on peut trouver ça artificiel, mais j'ai l'impression que ça marche. Je me permets de citer le dernier Rolling Ifop pour Paris Match d'aujourd'hui. On a vu que suite au discours de Marseille, l'évolution des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui vont voter Emmanuel Macron ou qui disent qu'ils vont voter Emmanuel Macron ont progressé. Elles sont passées 33% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon disaient qu'ils allaient voter Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ils sont 39%. Idem côté Jadot. Alors bon, certes, la base est plus petite, mais ils étaient 53% le 15 avril à dire qu'ils allaient voter pour Emmanuel Macron au second tour, et aujourd'hui ils sont 70%. Alors c'est peut-être un hasard, mais en tout cas c'est un drôle de hasard. Donc peut-être que les ficelles sont parfois artificielles, mais peut-être qu'elles marchent un peu et que ce virage ou cette volonté d'Emmanuel Macron d'afficher une couleur verte plus forte et plus brillante marche chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et d'autres électeurs de gauche.
Jérôme Béglé, JDD, un mot peut-être pour conclure après cette soirée, cette 2h30 de débat tendu hein, parfois entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Si j'osais, mais ce ne serait pas très aimable pour les gens qui sont investis dans ce débat, je dirais 2h30 qui n'ont pas changé la face du monde et qui ne changeront pas la face du scrutin de dimanche.
Louis Dragnel.
Non, je vous trouve un peu dur, Jérôme. Non, mais après, ça fait partie les débats politiques font partie de la vie du pays. Moi, je trouve que ce débat était quand même très important. Il en va quand même de c'est une page de l'histoire qui est en train de s'écrire, une page de notre histoire. Et alors, peut-être que je vous rejoins sur le fait qu'il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 20% de l'électorat qui va basculer à la suite de ce débat-là. Mais je trouve que c'est un moment important. Je pense que les Français qui ont regardé, qui ont écouté ce débat-là, eh bien, ils étaient contents de le faire.
Merci à vous, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Merci à Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD. Merci à vous, Marianne Agrippiné, grand reporter à Paris Match. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi avec nous cette grande soirée politique. Ça a été un plaisir de partager ce moment, ce point d'orgue de la campagne de l'entre-deux-tours. On vous donne rendez-vous demain matin sur Europe 1 avec Pierre Devineau. Et puis, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sera notre invité exceptionnel de 8h à 9h.
Élysée 2022.
Le débat de l'entre-deux-tours est sur Europe 1.